Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs, nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de Lana. Bonjour Lana.
Bonjour Drew.
Et nous accueillons aujourd'hui Lionel Desbarbieux de Gigamic.
Bonjour. Non,
bonjour. Nous allons commencer cette petite interview par notre traditionnel fil rouge. Mais comme nous sommes joueurs cette année, nous allons jouer avec nos auditeurs. Les réponses que vous allez entendre ne sont pas forcément celles qui vont avec les questions. Nous avons peut-être un petit peu mélangé tout ça au montage. À vous de retrouver quel jeu va avec quoi. Et dites-le nous dans le billet de l'émission. Donc Lionel, quel est ton jeu Madeleine de Proust ?
Mon jeu Madeleine de Proust, oulala, ça va être, on va dire que c'est un vieux jeu. Et ben là, je vais partir sur un truc qui va peut-être choquer les gens, désolé. Non, mais le Monopoly, je trouve ça fou. Je trouve ça fou, en fait, comment il a traversé les années, comment il s'adresse à tout le monde, comment ils ont trouvé toutes les variantes possibles et inimaginables, des noms de rues, des noms de... Enfin, je sais pas. Et je me dis que c'est un... Je sais pas si un jour on va voir la fin du Monopoly, quoi, en fait, quelque part. Et donc, je trouve ça très fort, en fait, même si c'est pas forcément le jeu préféré que je ressors à tous les repas de famille, quoi. Mais voilà, quand même, je trouve chapeau bas pour celui qui a tout simplement été chercher ce jeu-là.
Et tu sais que l'inventeur de Monopoly a pas touché grand-chose aussi, hein, fais attention.
Mais c'est pas grave pour la voilà, pour le renom quand même. Voilà.
Quel est ton genre de jeu préféré ?
Alors, je suis très jeu d'ambiance. Voilà, très jeu d'ambiance, parce que voilà, j'aime bien les jeux. Ben, quand on joue comme ça, on joue pas forcément dans un cadre que avec des joueurs. Donc j'aime bien des jeux qui sont faciles à appréhender pour tous, avec des règles simples et où il n'y a pas de prise de tête. Donc ça, c'est de façon générale. Donc c'est vrai que ces petits jeux d'ambiance, en fait, ça permet de jouer avec tout le monde, enfants comme plus âgés ou entre amis ou en famille, voilà. Donc c'est à cause de ça que j'aime bien ce côté ambiance. Et de temps en temps, se poser sur un peu plus de stratégie ou des choses comme ça, ça fait du bien. Mais voilà, majoritairement, les jeux d'ambiance.
Quel est ton jeu préféré dans ce genre ?
Là encore, je vais faire parti pris, c'est pas bien. Hein. Mais le jeu que je trouve avec une grande rejouabilité et que j'aime bien sortir régulièrement, c'est Acropolis chez nous. Parce que en fait, encore une fois, qu'on joue avec des gens avec lesquels on a déjà joué ou des gens qui découvrent, mais en fait, ça permet de... d'aborder le jeu à chaque fois sous différents angles. En plus, il y a des variantes, etc. Petit scoop, il y a des extensions qui vont arriver.
C'est pas vraiment un scoop puisque Jules nous en avait parlé dans son interview il y a un an.
Voilà,
ouais,
oui, voilà. Ah ben, faut attendre que ça arrive.
Peux-tu nous citer un jeu qui se trouve dans ta ludothèque et dont tu as honte?
Voilà.
Un peu forcément.
C'est un vieux jeu qui s'appelle Compatibility, en fait. Ah. Et qui me faisait bien, enfin voilà, qui m'a fait découvrir, bon, c'est des formes de jeu, hein, voilà, j'aimais beaucoup parce qu'en fait, on jouait entre amis. Et puis, en fait, ça permettait de déconner, de découvrir pas mal les gens autour de la table, d'aborder différents sujets, voilà. Et donc, grâce à ces thématiques et aux associations d'idées qu'on devait faire, et bah, tout simplement, en fait, voilà, ça permettait de découvrir les autres, et des fois, on apprenait des choses, enfin, voilà, sur les amis, sur la famille qui était autour de nous. Donc, j'avoue que c'est un vieux jeu qui m'a bien plu. Et après, bon, bah, voilà, on a plein de jeux, hein, qui nous plaisent et tout ça. Et puis, après, il y a des jeux qui m'ont amené vers des jeux différents. Je me souviens de l'un de mes premiers grand jeu entre guillemets, qui étaient les fameux colons de Catane ou les Carcassonne, voilà, qui était une évolution par rapport au Monopoly, on va dire. Voilà.
Tu pars pour 3 semaines et tu ne peux prendre qu'un seul jeu. Lequel prends-tu ?
Alors, pour 3 semaines, un seul jeu.
Alors, il n'y a pas de limite de place dans tes bagages. Tu peux prendre des grosses boîtes aussi.
Ouais. C'est une question piège, en fait. Il y a une version de joueur du colon de Catane et je vais rester sur celui-là. Un bon vieux comme ça, un bon jeu duel. Bien sympathique.
Avec une bonne profondeur et plein d'extensions.
Voilà.
Tu es invité pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Lequel prends-tu avec toi ?
Difficile. Mais c'est que des questions pièges.
Ah. Pas de mauvaise réponse.
Voilà. Non, mais je réfléchis comme ça. Alors, j'ai honte de le dire, mais j'ai pas encore joué et je voudrais essayer Trio.
Ah oui, vas-y.
Donc c'est vrai que je me suis dit que j'allais peut-être essayer, je vais profiter. Enfin voilà, j'ai vu la boîte, on m'en a parlé, j'ai failli jouer là au flip et je me dis quand même Lionel, faut jouer.
Alors que tu fasses la queue, là va y avoir du monde maintenant.
Voilà, mais je me doute là, c'est pour ça que ce sera peut-être pas le bon moment, mais bon.
T'avais prévu un méga tournoi de Challenger à 8, mais tous tes amis t'ont lâché. Vous vous retrouvez à deux. Tu sors quel jeu ?
Je suis désolé, hein, je vais rester sur la gamme Gigamic, c'est pas bien du tout. mais j'emmènerais bien un jeu comme Picomino. Un jeu facile, un jeu apéro, et puis voilà. Et c'est pas bien, je suis resté sur la gamme là.
Des formations professionnelles.
Quel jeu aurais-tu aimé inventer ?
Alors là, j'ai un parti pris là, parce qu'on a joué récemment en fait sur un de nos jeux diffusés qui est Mamie Moulmaki, et j'avoue, on a pris un grand plaisir à jouer avec des amis qui sont pas forcément joueurs justement. Et sur ce jeu de Mamie Moulmaki, enfin voilà, on a des gens qui comprenaient rien au départ, alors que c'est un jeu basique. Hein, j'allais dire, il y a pas de complexité, et ça donnait des réponses assez loufoques, puisque voilà, ils n'avaient pas forcément compris les jeux, différentes questions, ils se trompaient de cartes pour les réponses. Hein, voilà, donc ça a donné une bonne partie de fou rire entre nous. Voilà, et encore une fois. Voilà, ça a permis d'amener justement des gens qui n'étaient pas dans le jeu, justement vers le jeu. Et ça qui nous a plu aussi.
Et dernière question, à quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview ?
C'est vrai que quand je regarde des jeux comme La Bonne Paye, et je l'ai toujours. Voilà, on a passé des heures même avec mes enfants aussi. Hein.
Ok, on a terminé pour ce question fil rouge. On va passer maintenant à l'interview et on va commencer par te présenter un petit peu puisqu'on a cité ton nom. On a dit que tu venais de chez Gigamic, mais on n'a pas dit ce que tu y faisais.
Alors, c'est vrai.
Pour pas trop écorcher à ton poste, je vais te demander donc de nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais donc chez Gigamic.
Alors le beau titre, c'est responsable de communication événementielle. Ça consiste en quoi donc le pan communication. Comme son nom l'indique peut-être pas, c'est de la communication, c'est-à-dire qu'en fait, on va chercher tous les moyens de faire développer un petit peu notre marque ou nos produits sur le marché à travers que ce soit les réseaux sociaux, à travers les, j'allais dire que ce soit de la presse, que ce soit des blogs, que ce soit des influenceurs, que ce soit des partenariats sur la sortie de jeux. Donc voilà, développer le maximum de présence sur différents types de réseaux. Et là, bon, il y a des personnes hein, comme Rawan, Ariane, Arnaud qui travaillent là-dessus. Il y a aussi nos sites internet, des mini-sites internet qui sont dédiés aussi à certains de nos jeux. Donc voilà, en fait, on a tout ce pôle-là sur la partie communication et sur la partie événementielle, qui pour moi, en fait, est aussi un moyen de communication. C'est d'être présent sur le maximum sur le terrain pour présenter nos jeux, pas forcément que nos nouveautés, mais présenter nos jeux sur des festivals. Mais ça peut être sur des tournées d'été, ça peut être sur des événements. On a déjà organisé des petits chasses au trésor pendant le Covid dans une dizaine de villes en France. Ça peut être à travers des animations, des tournois dans des cafés-jeux. Enfin, voilà. C'est vraiment la présence de nos jeux sur le terrain, indépendamment que de réseaux de communication pur et dur. En fait.
Sur le terrain est grand. Vous allez jusqu'où en termes géographiques ?
Alors, pour ma part, déjà le territoire français, qui est déjà pas mal, hein, qui est déjà grand. Et on va également sur les salons en Allemagne. Je m'occupe aussi de tout ce qui est Nuremberg, Essen. Là, on va aller faire un petit coucou à nos amis suisses au mois de mars. On va aller à l'UDESCO. Voilà, même si on a des distributeurs là-bas, mais on va les épauler aussi de temps en temps et puis montrer nos jeux purement Gigamic en fait, voilà. Et bon, un peu moins, on accompagne maintenant la Belgique. Avant, on était sur la Belgique, mais on a trouvé maintenant un partenaire qui nous distribue, qui assure la présence en Belgique, mais ça n'empêche que du coup, de temps en temps, on se déplace aussi sur les festivals en tant que Gigamic en Belgique.
D'accord.
Voilà.
Et toi, pour ton poste propre, quelles sont tes responsabilités ? Qu'est-ce que tu vas faire justement dans tous ces événements ? Est-ce que tu te déplaces beaucoup ?
Alors, des déplacements, oui, on va dire que, enfin, beaucoup, c'est beaucoup et peu. J'essaye de me déplacer moi à peu près une fois par mois, deux fois de temps en temps. Il y a Anthony qui est avec moi au niveau de l'événementiel qui également fait la même chose, va se déplacer une ou deux fois par mois. Donc, ce qui veut dire qu'on assure deux trois sorties par mois sur les festivals en France. Quand on se déplace sur ces festivals, notre rôle peut être multiple. On va avoir déjà un rôle d'animation, ça peut arriver sur des plus petits festivals où en fait on y va généralement accompagné d'une, deux personnes et puis on va animer nos tables. Tout comme un animateur, Gigamic, comme je dis. On va pouvoir y aller aussi sur un rôle de relationnel. Ça permet aussi d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer des acteurs du monde ludique, d'aller rencontrer les organisateurs du festival, d'aller rencontrer des boutiques, d'aller rencontrer des assos, des ludothèques du coin. Donc c'est toute cette démarche là aussi, d'aller rencontrer nos animateurs parce que c'est aussi important. On a des animateurs qui travaillent régulièrement pour nous et je pense que c'est important aussi de pouvoir échanger en direct avec eux. et pourquoi pas d'aller voir un petit peu des gens qui auraient envie de devenir animateurs. Et justement, c'est l'occasion de les voir. Généralement, par exemple, ils peuvent être bénévoles sur un événement, venir nous voir et en disant « Tiens, Lunel, j'aimerais bien, comment on fait pour devenir animateur avec vous chez Gigamic et tout ça ?» Et c'est l'occasion de les rencontrer, de voir comment ils se comportent aussi sur le terrain et voir si ça peut matcher, j'allais dire, avec notre vision, on va dire, de l'animation et nos animateurs.
Gigamic a des représentants un petit peu partout en France, en fonction des régions. Vous recrutez, en fonction des festivals, différents animateurs ?
Alors, c'est pas vraiment des référents. En fait, en tant que tel, on n'a pas vraiment de comment dire. On a, j'aime pas dire ça, mais un fichier d'animateurs. Voilà. Le terme fichier, c'est très inhumain. Enfin, j'aime pas ça. Mais en fait, voilà, on a en effet des animateurs sur lesquels on peut compter, à travers un peu toute la France, dans chaque région. C'est vrai que c'est plus simple quand on va se déplacer sur un festival, d'avoir quelqu'un à proximité pour des questions de coût, pour des questions aussi de déplacement pour la personne. C'est jamais sympa de faire 3-4 heures de route pour, un peu perdu dans le train ou en voiture. Bon. Le plus proche, au mieux, j'allais dire aussi pour les festivals. Mais voilà, bon, on n'a pas maintenant chaque ville de France qui est représentée par un animateur, même pas forcément chaque département. Voilà, on va dire qu'on va tourner avec une quarantaine d'animateurs, en fait, à l'année, ce qui est déjà pas mal, parce que il faut essayer de, l'idée, c'est de faire travailler un peu tout le monde aussi, et on se déplace pas sur assez de festivals, malheureusement, pour faire vivre au quotidien tout ce beau monde.
Des festivals, il y en a énormément. Oui. On pourrait dire plusieurs par week-end. Vous en couvrez combien dans l'année ?
Alors, on va dire qu'on a deux types de partenariats avec les festivals. On a les festivals sur lesquels on va se déplacer. Alors, quand je dis « on », c'est pas forcément Lionel et Anthony. Hein, c'est pas ça du tout. C'est Gigamic va envoyer des animateurs. Et on a les types de festivals où malheureusement on peut pas se déplacer pour des questions de calendrier, de taille, etc. ou différentes raisons, on va dire. Et on essaye de les soutenir par l'envoi de jeux, de nouveautés. Ça leur permet de aller au niveau des bénévoles. Alors là aussi, ça dépend de la structure du festival. Hein. Mais si le festival le permet d'avoir des bénévoles qui expliquent nos jeux, on envoie volontiers nos jeux. Et puis après, ça intégrera leur ludothèque après ou leur association. Mais voilà. Donc là, on les laisse animer nos jeux puisque comme au niveau des chiffres. Ça représente à peu près une quarantaine de festivals sur lesquels on va se déplacer et une quarantaine de festivals sur lesquels on va accompagner sur des partenariats au niveau des jeux. Notre objectif étant d'être le maximum sur le terrain avec nos animateurs. Mais voilà, c'est de la logistique, c'est un coût et on ne peut pas malheureusement être sur tous.
Et donc du coup, moi quand je te vois, je t'imagine avec ton camion et chargé qui parcourt la France avec le stand, les bannières et tout ça, non ? Comment ça marche ?
Alors on pourrait presque, mais malheureusement nous on procède pas trop comme ça parce qu'on a on est dans un super coin que tout le monde apprécie, c'est le Pas-de-Calais, très touristique. Non, Vimbreux où on est en plus c'est très touristique, cela dit en passant. Faut venir nous voir, nous rendre visite. On a la mer et puis il manque un peu de soleil, on va dire. Mais par contre du coup ça nous fait qu'on est complètement au nord-ouest de la France. J'ai pas dit qu'on était à l'ouest, je dis qu'on était au nord-ouest, hein, au niveau de Gigamic. Donc ce qui fait que pour les déplacements, malheureusement en fait avec son petit camion quand on doit aller à Toulouse ou quand on doit aller à Montpellier ou à Cannes, ça fait un peu loin. Donc il est vrai que si on peut, on achalande des fois des petites camionnettes, des voitures, etc. Puis on se déplace, mais on va dire dans un rayon de maximum 4-5 heures en véhicule. Et sinon, on est obligé de passer par des systèmes de colis, voire de palettes complètes qui vont partir sur les festivals et qu'on va envoyer via des transporteurs en fait, tout simplement. Okay.
Donc justement, quand on voit des grands stands comme on peut avoir ici à Cannes, tout est préparé dans vos locaux. Vous montez à blanc ou vous,
c'est ça.
Vous envoyez ?
On essaye de faire au maximum avant. C'est-à-dire que là, j'y prends l'exemple de Cannes. Sur Cannes, c'est quand même 80 palettes qui nous ont rejoints sur notre stand. À travers ça, c'est vrai qu'il y a des espaces boutiques, il y a des espaces déco, etc. Donc, on essaye auparavant au niveau de l'entrepôt s'il y a des meubles à monter, des décors, etc., de monter, d'assembler le maximum. Faut optimiser entre la place qui est prise dans le camion et le temps passé à le monter ici. Donc voilà. Donc, ce qui nous prend du temps, tant pis, ça prendra du temps à l'entrepôt avant de partir et ça prendra de la place dans le camion. Mais voilà. On est obligé de jauger par rapport au temps d'installation que l'on a. Et donc, on essaye d'automatiser le maximum. Quand je parle d'automatisation, en fait, c'est d'optimiser vraiment le temps. Parce que comme des festivals comme Cannes, on a vraiment 2 jours pour tout installer. Avec tous nos partenaires, tout dispatcher, préparer les boutiques. C'est vrai que heureusement que des choses sont faites en amont. Et pas seulement par l'équipe événementielle communication, je souligne. Par l'équipe aussi qui gère l'entrepôt, justement, qui nous ont donné un sacré coup de main sur cette édition. Et donc, voilà, c'est tous ces gens-là qui travaillent, dans l'ombre. Mais qui nous donnent beaucoup de mains et qui participent largement à la réussite de notre présence sur le terrain.
Et du coup, je rebondis aussi sur SN, qui est encore un cran au-dessus en termes de stand, pour l'avoir vu. C'est des grands entrepôts, là où Cannes, ça reste à hauteur d'homme.
On est encore sur une autre version de festival, justement, c'est intéressant, de salon, puisque sur le salon d'Essen, c'est un, le aujourd'hui, c'est le seul salon sur lequel on fait appel à un standiste. Donc là, en fait, on est sur des murs qui vont pas faire 2 mètres 50, mais 3 mètres de haut, qui nous permettent d'avoir aussi des bureaux qui sont insonorisés, parce que, Essen, c'est quand même des halls très bruyants. Et donc, en fait, ce qui fait que, quand vous rentrez dans les espaces bureaux, showroom, etc., c'est insonorisé davantage. On rentre dans un petit cocon. C'est juste une question de confort et de qualité de travail, j'allais dire, pour nos équipes qui sont sur place. Et donc visuellement, on a des super visuels rétro éclairés, on a des beaux espaces qui sont insonorisés, et tout ça, en fait, on peut pas le gérer nous en direct, on n'a pas la capacité à le faire, et donc on s'appuie là sur un standiste sur cette partie
là. Donc là, vous faites des plans pour le standiste et il vous fait.
Alors là, le travail se fait aussi en amont, donc voilà, on part. Alors pas toujours d'une page blanche, ça dépend, hein, parce que là, on est reparti d'une page blanche parce que quand on se déplace, ça a changé carrément de stand, donc les proportions changent, donc les partenaires, sur le notre îlot, peuvent évoluer aussi, puisque on s'agrandit avec toute l'équipe du groupe, et donc en fait, on essaye de d'uniformiser au mieux les différents stands présents en fonction des îlots et des espaces que l'on a pu avoir, et donc voilà, on va travailler vraiment sur plan au avant. On va tout définir dans un cahier des charges, on va valider des plans, les faire évoluer, on va avoir des vues 3D et en fonction de tout ça, on va calibrer, et ensuite viendra le temps des visuels, puisque une fois qu'on a déterminé le stand, déterminé les jeux qui seront présentés, il va falloir déterminer quels sont les visuels, quelle est la PLV et quelle est la mise en scène, les décors, parce qu'on aime bien nous apporter du décorum sur nos stands, en l'occurrence sur Essen, sur le dernier Essen, on avait mis en avant Acropolis avec un petit temple, avec des colonnes, avec des lierres, des statues, c'était le jeu qu'on avait vraiment mis en avant, et pour nous c'est vraiment important, parce que il y a une côté immersif des personnes qui viennent, enfin des joueurs qui viennent partager un moment avec nous.
Ouais, je me souviens l'animateur Antoge qui nous a expliqué Acropolis.
Et aussi, on maltraite nos animateurs pour ça. Ils sont là actuellement, à Cannes, on a des animateurs qui sont en mouton, en canard, il en faut pour tous les goûts. Mais les malheureux, et ils n'ont pas de prime. Non, je le précise tout de suite.
Il n'y a pas une prime
ils
mouton.
Ils sont volontaires, quand même.
Et ces grands stands à Essen, vous les récupérez derrière, vous pouvez les réutiliser les années d'après?
Alors sur la partie standiste, on essaye de récupérer bien entendu au maximum, le réutiliser pour des questions de coût et d'écologie aussi, quand même malgré tout. En tout cas, on essaye de récupérer, que les rendre le plus possible, modelables, pour que on puisse, malgré des changements de stand, malgré des changements parfois de proportions, etc. de nos emplacements, essayer de récupérer quand même. Là, je parlais des visuels rétroéclairés, c'est des pans de mur qu'on peut mettre en horizontal ou en vertical, qu'on peut donc utiliser de façon différente, donc avec des hauteurs et des largeurs différentes. C'est toutes des petites choses comme ça qui nous permettent de réutiliser. On a un ring qui nous attend, et le jour où on a envie de ressortir notre ring, ça faisait partie d'un décor chez le standiste, mais on peut le récupérer à tout moment. On essaie de rendre les choses quand même récupérables et réutilisables. Ouais.
Il arrive que sur des salons, il y ait différents stands gigamiques à différents endroits. Il faille agencer différents lieux.
C'est-à-dire, là, j'ai pas.
À Essen,
vous avez jamais eu deux endroits à.
Alors, sur Essen, non, on n'a jamais eu deux lieux. On a toujours été rassemblés. Ce qui fait partie aussi de mon travail en amont, c'est de représenter Gigamic avec la partie édition, co-édition, voire export, etc. Et quand on se déplace sur des salons, alors je parlais par exemple en France, c'est d'essayer d'avoir tous les studios avec nous. Ce que j'appelle studio, les éditeurs, les partenaires, etc., en diffusion. Et donc, c'est de faire un petit peu l'inventaire de tous les besoins de tout le monde et essayer de convaincre les organisateurs, dire il y a tout ce beau monde qui va venir, donc on aimerait bien être tous ensemble, comment on peut travailler dans cette voie-là. Et c'est vraiment comme ça qu'on avance.
L'année dernière à Cannes, c'était organisé différemment?
Ouais, tout à fait. L'année dernière à Cannes, on était donc sur deux niveaux, puisqu'il y avait l'espace enfant qui se trouvait au zéro, et nous au moins un au niveau du stand tout public et joueurs. Sur l'espace moins un, on retrouvait justement les partenaires éditeurs et des jeux Gigamic. Et nous, avec notre espace enfant, on occupait 150 mètres carrés en haut en plus. Et sur ces 150 mètres carrés, le problème, c'est qu'on doit aussi recréer des décors. On recrée un monde qui est différent. Là, on a essayé cette année de faire une petite ville. Donc, on a donné une certaine uniformité dans tout le stand. On va avoir une taverne, on va avoir un parc de jeux pour les enfants. On va trouver une guinguette, etc. Enfin, on va trouver des coins zen et tout. On a vraiment voulu essayer de thématiser sur un ensemble de stands. Ce qui est pas possible déjà quand on a deux stands. Ça a moins de cohérence. Et c'est surtout même les équipes d'animation. C'est aussi un peu compliqué parce que les affluences sont variables. Et on est obligé d'affecter des animateurs à l'étage. Et puis, on y va. Et puis, en fait, il faut les dispatcher, les faire redescendre, faire descendre des petits oursons quand on est en bas en train d'expliquer un Acropolis, c'est moins parlant aussi. Donc, enfin voilà, la gestion des déguisements, des animateurs, de la logistique, même des pauses déjeuner, etc. C'est beaucoup plus compliqué. Nous, ça nous va très bien d'être tous regroupés au niveau du pilotage, j'allais dire journalier. C'est vraiment cool pour nous d'avoir pu regrouper tout le monde.
Ouais. Au niveau du temps de préparation, parce que s'il y a des décors, des déguisements, il faut regrouper tous les besoins au préalable. Vous vous y prenez combien de temps à l'avance ?
Alors en fait, sur la partie déjà définition du stand et des besoins, généralement on commence fin juin en discuter avec les organisateurs et on termine au moment des scènes, au mois d'octobre. Et c'est là où c'est à peu près figé pour nous les espaces que l'on aura. À partir de là, on rentre dans le contre-la-montre de d'échanger avec tous les partenaires pour voir qui va sur quel lieu, etc. Vérifier que les surfaces à rendre pour tout le monde. Une fois que le plan est posé avec toutes les entités, tous les partenaires, nous on va essayer de regarder comment on va aménager le stand. Pour ça, il faut déjà déterminer quels sont les jeux qui seront présents. Et là, on arrive déjà à fin d'année en fait.
Les dates de sortie sont plus ou moins fixes.
Voilà. Donc on prévoit en fait une zone. Qu'on appelle Proto, c'est peut-être là, on a une rue qui s'appelle l'usine à Proto, qui est en fait les jeux qui ne sont pas encore sortis et qu'on peut tester. Donc en fait, cette rue sera plus ou moins grande en fonction des retards qu'on pourra avoir. Ça nous donne une petite marge de sécurité en disant voilà, si le jeu malheureusement n'est pas sorti, de toute façon on le présentera à Cannes et c'est tout, il rejoindra ce côté jeu un petit peu en primeur, en avant-première que vous pouvez tester. Donc quand on dit prototype, c'est péjoratif parce qu'on a des jeux là qui sont finis. C'est juste que voilà, ils sont en train d'arriver, ils sont bientôt sur le marché. On a Loot qui va sortir au mois de mai, il est là. Enfin, on a Pac-Man qui arrive bientôt, enfin Corridor Pac-Man qui arrive et qui est prêt. Donc là, on est sur les versions vraiment de prod finalisées, mais qu'on peut tester quand même. Mais des fois, c'est des étapes plus prototypes. On a une boîte ou deux et on les fait tester à Cannes. Et puis, on joue sur les protos, ce qui était le cas il y a 2 ans d'Acropolis. Ça a été comme ça, quoi, en fait. Et donc, tout ça pour compléter le timing. On commence donc, en fait, voilà, quasiment à l'été, on va dire, à réfléchir à l'été qui précède Cannes, à réfléchir aux emplacements. Avant la fin d'année, savoir un petit peu les zones. Et à partir du début d'année, là, on attaque vraiment sur la partie décor.
D'accord. Donc, on est sur un bon 8 mois de préparation,
ouais,
8 à 10 mois de préparation.
Ouais, complètement. Ouais, ouais. Et sans compter les espaces à côté, par exemple, les logements réservés, les choses comme ça. Là, on a intérêt à le faire quasiment un an avant.
Ouais. Et on peut imaginer le même calendrier pour Essen, pareil, sur 8 mois, pareil.
Tout à fait. En fait, on sort d'Essen, on réserve l'hôtel d'Essen derrière. Et puis, en fait, on est sorti d'Essen. Pour donner un estimatif, c'est que j'étais en train de préparer Nuremberg qui avait lieu fin janvier. Donc, on était au mois de décembre. Et puis, on reçoit coucou, c'est Essen, vous pouvez déjà réserver vos stands. Non, non. Non, pas maintenant.
On vient de rentrer.
C'est un peu bizarre. Ça chevauche un tout petit peu. Bon, après, c'est des pré-réservations, des souhaits, etc. Mais ça n'empêche que les sujets se chevauchent sur les gros festivals et en parallèle de tout ça, il y a tous les festivals qu'on retrouve en France sur lesquels on nous retrouve qui viennent pimenter un petit peu notre quotidien.
Oui, Vichy, Ludinor, etc. Enfin, il y en a énormément et voilà. C'est toute l'année. Oui.
voilà, tout à fait, c'est ponctué. Et après, il y a des périodes. On a remarqué d'affluence de festivals et des périodes plus calmes. Étonnamment, par exemple, le mois de juin était un peu plus calme l'année dernière, avec par contre un mois de septembre-octobre très riche en festivals. C'était, enfin voilà, je dis pas qu'il y en avait pas au mois de juin. Je dis juste qu'on s'est aperçu qu'en septembre-octobre, il y a eu beaucoup de festivals en France en fait où on souhaitait être présent et tant mieux. Hein. Et donc voilà, donc il y a des périodes comme ça où faut pas se couper aussi sur notre présence.
Mmh. Ouais. Quand on est arrivé, on t'a trouvé debout sur une chaise en train d'accrocher des fanions et des lampes.
Ouais.
C'est un métier très polyvalent quand même.
Oui, on a trouvé des idées pires hein, des fois. Je citerai pas de nom, mais on avait fait il y a 2 ans en fait Harry Potter avec le Similo Harry Potter et on avait eu la bonne idée de créer une structure un peu carrée, un peu pergolage j'allais dire en bois et qui donnait sur un grand décor du réfectoire peut-être que les gens connaissent de Harry Potter, donc le grand réfectoire. Et donc dans la lignée de tout ça, on avait nos tables et on a eu la bonne idée de mettre des bougies qui flottaient dans l'air. Et en fait, chaque bougie, il fallait les dévisser avec des petites LED, hein, bien entendu, mettre du fil de pêche, l'accrocher sur un filin, etc. À 3, on a passé 2 heures rien qu'à faire ça, à s'amuser avec nos petites bougies. Donc je ne citerai pas la personne qui a eu l'idée, mais on avait un petit peu la haine.
J'en ai dit que c'était pas toi, alors.
Non, c'était pas moi. Mais j'ai vendu l'idée parce que c'est vrai que le rendu était au top.
Tu as signé.
Voilà, j'avoue.
D'un point de vue budget, j'imagine que d'un point de vue communication, entre la logistique, les locations de stands, les décors qui sont fabriqués, le pourcentage alloué à la com est très grand chez Gigamic.
Oui, on a la chance quand même d'avoir un beau budget. Alors, encore une fois, communication et événementiel, qui sont deux budgets qu'on traite un petit peu en parallèle. L'événementiel est un peu géré en parallèle chez nous. Et donc oui, alors j'ai pas donné les chiffres, mais en fait oui, on a vraiment un beau budget alloué. J'ai la chance en fait d'avoir un budget qui ne diminue pas, malgré, mais bon, à l'inverse, on a des coûts qui augmentent aussi à côté, donc c'est pas toujours évident d'assurer la même présence. On essaye vraiment, mais enfin voilà, on chez Gigamic, en fait, je pense que l'idée, c'est vraiment que c'est la présence sur festival, la présence sur le terrain est importante. Et pour nous, ça nous permet non seulement de présenter des nouveautés, de présenter des jeux, mais de rester en contact avec les publics, d'avoir leur retour directement. Et on est très porté sur le côté convivialité, venez découvrir, venez passer un bon moment avec nous. Et si on n'était pas sur le terrain, bah, on perd tout ça, forcément. Et donc, d'où l'idée vraiment d'être présent au maximum sur différents types de festivals, que ce soit des joueurs, que ce soit des moins joueurs, que ce soit des plus petits, des plus gros. Vraiment, l'idée, c'est d'aller à la rencontre du public et que le public puisse venir partager un moment avec nous, se poser et repartir content. On va dire que si les gens ont passé un bon moment avec nous autour d'un jeu, bah, j'allais dire, on a déjà fait pour nous les trois quarts de notre boulot. Après, bah, j'espère qu'ils l'achèteront, mais vraiment, voilà, le plus gros boulot, il est là, quoi.
Un chiffre peut-être que tu peux nous donner, c'est le nombre de personnes, d'animateurs sur le stand Gigamic au Fige cette année.
Alors au Fige cette année, on est alors je me compte pas dedans, je compte pas Anthony. Il y a 19 animateurs cette année, un peu moins que l'année dernière, mais justement qui nous permet pour deux raisons, c'est que déjà on n'est pas sur ces deux niveaux et ça nous permet d'optimiser les animateurs. Et la deuxième raison, c'est qu'on adapte aussi le nombre d'animateurs, non pas au nombre de tables ou à la surface, mais au type de jeu. Parce que forcément, il y a des jeux qui vont assez rapides, vont être assez rapides à expliquer, et les gens sont partis pour 40, 45 minutes, une heure de jeu. Et donc, dans ce cas-là, bah, nos animateurs, l'idée, c'est qu'ils s'ennuient pas non plus sur le stand, c'est pas cool non plus pour eux. Donc, l'idée, c'est de répondre de façon le plus réactive possible aux gens qui arrivent sur le stand et leur donner la possibilité de jouer rapidement, pas d'attendre un animateur. Mais aussi, il faut le juste milieu, voilà, avec des animateurs qui s'amusent aussi d'être là, qui prennent du plaisir à être là, et donc qui puissent expliquer des jeux, échanger avec les gens également, quoi.
19 personnes, vous avez réservé tout un hôtel ou une grande villa, peut-être?
Alors là, sur le coup, au niveau de Cannes, oui, on a réservé un petit hôtel, on privatise notre petit hôtel, quel luxe. un petit hôtel, non, c'est vraiment sympa. En fait, on a cette approche, encore une fois, je parlais de convivialité. On le veut avec les gens, les joueurs, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite. Mais également en interne, dans le quotidien de Gigamic, et on intègre aussi ce réseau d'animateurs que l'on a. Et donc là, en l'occurrence, sur le Fige, on a trouvé un petit hôtel, c'est péjoratif, entre guillemets, de dire petit hôtel, parce qu'il y a quand même une quarantaine de chambres. Mais en fait, voilà, on est tous ensemble. Quand je dis tous ensemble, c'est aussi bien tout le monde qui vient, parce que voilà, on parle des stands publics, mais on a aussi tout le cinquième étage ici, et on a toute l'armada de commerciaux qui font un sacré boulot là-bas au cinquième. Et donc, en fait, c'est toute l'équipe Gigamic, une grande partie, en tout cas, du staff Gigamic qui arrive, et ces fameux animateurs qui sont là, qui se joignent à nous, et des fois des partenaires qui viennent aussi partager, j'allais dire, ces moments de convivialité.
Oui, parce que tu l'as répété à plusieurs reprises, donc tu as des partenaires, enfin Magic Gaming a des partenaires, on peut penser à Sorry War French par exemple, ou la boîte de jeux ou autre, qui eux-mêmes ont leur stand différencié du stand de Magic Gaming.
Tout à fait, alors comme j'expliquais, au niveau de l'organisation, de l'orchestration, on va dire, on échange ensemble pour arriver à un ensemble cohérent au niveau de la présence de chacun. Donc en fait, c'est pour ça qu'on, entre guillemets, avec les organisateurs, on trouve la zone de départ et après on s'organise, etc., et on propose des plans et chaque partenaire, en essayant de répondre tous les desiderata par rapport au type de jeu, par rapport les côte à côte, il faut que ce soit aussi cohérent des fois, etc., et par rapport à la présence de boutiques, par rapport à toutes ces choses là et donc en fait, quand on parle de des studios comme Sorry War French, UH, Unifox ou autre, et ben en fait ces gens-là par contre vont ensuite s'autogérer pour leur PLV, pour l'animation, parce que là quand je parle des 19 animateurs, on est bien sur le stand Gigamic pur et dur, Gigamic édition que édition, quoi, en fait, hein, tout simplement. Et donc en fait les partenaires studios qui viennent, une fois qu'ils ont leur emplacement, eux ils arrivent et ils investissent les lieux avec leurs animateurs, leurs PLV, et ils gèrent aussi leur partie logistique au niveau des logements, etc. Au niveau des palettes, tout ça, tout part du même entrepôt. Mais par contre, au niveau logistique, en fait, de pratique déplacement, logement, etc., ils gèrent leur propre équipe.
Donc, on est à Cannes. Vous avez un magnifique stand. Quelles sont les nouveautés que vous présentez?
Alors, on va avoir. Alors, comme je disais, il y a deux parties. Il y a la partie, en effet, stand où les gens peuvent jouer et repartir avec la boîte. Et la partie nouveautés un petit peu avant-première. Alors si on attaque déjà sur la partie avant-première, on va avoir des jeux comme, j'en ai parlé tout à l'heure, Loot et Corridor Pac-Man. Là ce sont les deux grosses nouveautés mises en avant, mais on a aussi la saison 2 de Critical qui va arriver au niveau de Critical Foundation. Et donc c'est pour ça qu'on a remis Critical. Critical n'est pas une nouveauté en soi, mais par contre ça permet, pour les gens qui connaissent déjà Critical Foundation, eh ben, de jouer le premier épisode de la saison 2, ou pourquoi pas l'occasion de découvrir le jeu Critical, sachant que voilà, il y a plusieurs saisons en fait au jeu présenté. Après on va avoir d'autres jeux qui sont mis en avant, qui là sont sortis, comme Wolfgang, comme j'allais dire Pawn City, on va avoir Banzai, on va avoir Dorf Romantique, on a entendu pas mal parler, il y a pas mal de tables autour de ça, mais des jeux abstraits comme Kawale. C'est pas la première fois, hein, c'est pas un petit nouveau, c'est la deuxième fois qu'on le met en fait Kawale sur le festival, mais en fait qui marche bien au niveau du petit jeu abstrait, et puis des jeux en fait sur lesquels on avait des demandes comme j'allais dire, enfin, j'ai revenir comme Marrakech, parce que voilà, on a une nouvelle édition. J'avais du mal à retrouver les mots, mais en fait, voilà, Marrakech, en fait, il y a une réédition qui a eu lieu. C'est pour ça qu'on le remet en avant, parce que voilà, le design est là, c'est l'occasion de le remettre en avant, de le faire redécouvrir, et on voit que le public le redécouvre avec grand plaisir. Donc voilà, ça, c'est pour citer qu'une partie des jeux, mais sinon, on a aussi des jeux enfants comme Syllabus en nouveauté et comme Plouf Canard. Voilà, donc y en a pour tous les goûts, et comme ça permet de trouver des déguisements aussi. Des fois, on signe des jeux en fonction des déguisements qu'on pourra faire. Non, je plaisante. Je plaisante.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu voulais nous parler, Lionel?
Alors en complément en fait de toute cette activité, il y a deux petites choses que je j'ai pas évoquées, c'est qu'en fait on s'est pris là dernièrement deux événements en fait qui nous a pris comme ça l'idée d'organiser. C'était une déstockage dans nos entrepôts, ça c'est une première chose, parce qu'en fait c'était une demande qu'on avait de pas mal de personnes. Donc ça c'était un événement, bon c'est nouveau, on l'a fait une fois, on a eu je crois 2000 personnes qui sont venues pour une première, c'était quand même pas mal, voilà, on connaissait pas du tout le comment dire l'impact qu'on allait avoir.
Comme quoi, et vous êtes pas complètement à l'écart finalement.
Non, voilà, c'est ça qui nous a surpris, parce qu'on a des gens qui sont venus de Belgique, des gens qui sont venus de la Somme, etc. Donc les gens se sont déplacés, on a rencontré des gens qui étaient là et qui ont dit oh c'est chouette, on était là, on vient en week-end à la mer, et puis on dit ah mais c'est vrai, profiter de ce week-end à la mer c'est cool. Non, en fait on est venu pour cette partie ouverture de Gigamic, et on en profite pour aller à la mer, d'accord. Et on a eu en redondance sur un deuxième sujet qu'on avait fait également là sur le mois de juin, c'était aussi des gens qui nous disaient vous faites jamais de porte ouverte chez Gigamic, et donc on a essayé d'ouvrir au public en fait en disant bon on va peut-être avoir 50, 60, 70 personnes, aucune idée, parce que pour nous les gens allaient voir des bureaux, enfin on savait pas trop, et donc on a fait un petit formulaire qu'on a mis en ligne à 17h en fait un soir, et le lendemain matin on regarde à 9h, et en fait on avait mais bien plus de personnes, puisqu'on était déjà à 150 personnes en fait inscrites, et sur une après-midi. Donc en fait on a complètement changé même le format qu'on avait organisé et tout ça. On avait demandé sur les formulaires est-ce que ça vous intéresserait éventuellement de voir l'entrepôt, et en fait à 100% les gens voulaient voir notre entrepôt. Donc en fait c'est là où on s'est aperçu un petit peu l'intérêt des gens pour le revers de l'activité, et donc les gens sont venus, ils ont l'occasion de visiter de base des ce qui nous semble pour nous des simples bureaux, mais nos showrooms, toutes les boîtes de jeux, etc. De partager un moment avec l'équipe édition qui leur a présenté un petit peu le métier d'édition, et pour essayer un proto, enfin voilà, un petit quelques minutes, et ça voilà, c'est une expérience qui a vraiment plu. Et également rencontrer en fait les équipes, parce que voilà, il y avait des gens d'export qui étaient là, il y avait des commerciaux, et donc ils ont pu échanger comme ça avec des gens, et on s'est aperçu que en fait les gens étaient vraiment attirés par les métiers qu'il y avait derrière, même les infographistes, enfin voilà, tous les métiers de l'ombre en fait qu'on imagine pas forcément quand on joue à un jeu, voilà qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc c'est une expérience qu'on renouvelera certainement donc sur cette année, parce que bon, on s'est aperçu qu'on avait dû malgré tout refuser pas mal de monde, et en fait voilà, et puis les gens ils ont vu comment on préparait un colis, une commande, etc., et puis c'était génial pour eux, et ça permet de mettre nous aussi en avant les équipes justement qui n'ont pas forcément toujours l'habitude d'être vues et visibles des gens sur les festivals. Donc c'était une belle petite expérience, et encore une fois, voilà, je reviens toujours sur le mot convivialité, échange, et c'était vraiment un échange très sympa et une autre façon de rencontrer du public qui nous connaît bien en fait, et voilà, et les gens venaient pas forcément, encore une fois voilà, venaient pas forcément de Vimreux ou de Vimille à côté, ils venaient aussi d'espaces vraiment plus loin de Belgique. Et puis il y a même un monsieur qui est de Belgique qui dit mais ça fait 10 ans que je posais la question de savoir si vous allez faire une porte ouverte, et puis ça va, il est venu, il est content, il a vu sa porte ouverte, mais c'est génial, et rencontrer des gens comme ça nous booste aussi, quoi. Donc, voilà la petite anecdote.
Donc, chers auditeurs, si vous voulez visiter Gigamic, surveillez les réseaux sociaux, il y aura très certainiement une visite
dans la semaine. Voilà, certainement sur la fin du semestre. Voilà.
Est-ce qu'il y a un autre sujet dont tu voudrais parler, Lionel, peut-être, qu'on aurait oublié de mentionner?
Oh non, je crois qu'on a fait un bon petit tour d'horizon, j'allais dire, de mon activité. Donc, merci à vous.
Merci à toi d'être venu.
Pour votre accueil, sur cet échange. Et puis, au plaisir de venir représenter de nouveaux sujets avec vous, de partager d'autres nouveautés.
Ou de se recroiser dans un autre festival, quelque part en France.
Ouais, bien entendu. Ouais.
Merci beaucoup Lionel.
Merci à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un petit don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.